Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. En Lituanie, le taux de pauvreté est encore élevé et surtout, il n'a presque pas baissé depuis l'adhésion du pays à l'Union européenne. Une personne sur cinq est touchée. La question a été au cœur de la campagne des législatives, dont le deuxième tour a lieu ce dimanche avec un ballotage favorable aux sociaux-démocrates. Tous les grands partis préconisent une réforme fiscale pour plus de justice sociale, mais réduire les écarts de richesse reste un défi. Reportage à Vilnius de Marielle Vitureau.
Elie Guilla vient de finir ses études. Elle travaille désormais comme assistante sociale à Šilalė, une petite ville de 6000 habitants dans l'ouest de la Lituanie, et élève sa fille de 8 ans, bonne élève à l'école.
Aujourd'hui, je lui offre tout ce qu'elle veut.
La jeunesse de Elie Guilla ne ressemblait pas à cela.
Maman ne travaillait pas, elle avait juste une petite ferme. Le salaire de papa était très faible et il y avait 3 enfants à élever. La situation était difficile. Je voulais toujours quelque chose de plus, une sucrerie, du chocolat, un repas un peu meilleur, un vêtement un peu plus à la mode, mais il n'y avait pas l'argent pour ça.
Grâce à sa volonté et à un prêt étudiant, la jeune femme a désormais un avenir stable. La pauvreté a plusieurs visages. Estea Domavicene dirige le réseau de lutte contre la pauvreté. Elle y est confrontée tous les jours.
Les gens vivent avec une calculette dans la tête. Il faut penser à payer les charges, le chauffage et avec ce qui reste, la nourriture, les médicaments. S'il y a des enfants, tout ce qu'il faut pour l'école, pour s'habiller l'hiver. Souvent, on reçoit des appels. Qui peut donner des bottes d'hiver? Ça devrait pourtant être normal de pouvoir s'acheter des chaussures chaudes.
La population la plus à risque de vivre sous le seuil de pauvreté sont les retraités. Leur pension est en moyenne de 600 euros. Il existe quelques bonnes nouvelles sur le front de la pauvreté, mais elles ne doivent pas faire oublier que la situation reste difficile. Estea Domavicene.
Le taux de pauvreté des enfants a baissé de 11 points en 10 ans. Il est passé de 28 à 17 %. Les allocations familiales ont augmenté, le salaire minimum aussi. Tout cela a fait que nous réussissons à maîtriser les choses.
Pourtant, dans les rues de Vilnius, on ne dirait pas que la situation économique du pays est difficile pour une personne sur cinq. Les cafés sont pleins, même si un espresso n'est pas donné, au minimum 2 euros la tasse. Après avoir connu des difficultés et un taux d'inflation de 22% il y a 2 ans, l'économie lituanienne reprend des couleurs. Aujourd'hui, le salaire moyen net est de 1353 euros et il devrait augmenter de 9% l'année prochaine. Julita Varanauskienė, vice-présidente de la Banque centrale.
La croissance économique devrait être de 3% en 2025, mais il existe de nombreux écarts dans le pays. Il y a beaucoup de régions où l'activité économique stagne, où le taux de chômage est élevé et le salaire moyen bien plus faible.
La campagne électorale pour les élections législatives a donc principalement porté sur les questions sociales et de pouvoir d'achat. Comment faire pour que la Lituanie entière connaisse la bonne santé économique de la capitale Vilnius? Vytautas Adomaitis est l'un des candidats du Parti conservateur. Pour remédier à ce problème, il a une solution, une réforme fiscale ambitieuse.
Chaque type d'activité est imposé différemment. Cela donne un système qui est complètement injuste. Et l'injustice réside dans le fait que même si des gens gagnent une même quantité d'argent, les impôts qu'ils payent sur ces revenus peuvent varier énormément. Et en plus, ce système n'aide pas à résoudre le problème de la pauvreté.
Il faudrait donc pour lui introduire beaucoup plus de progressivité et être imposé en fonction du montant global des revenus et non pas de la nature de ceux-ci. Par ailleurs, il faudrait aussi consacrer plus d'argent à la protection sociale. Mais l'équation est très difficile, Julita Varanauskienė.
En ce qui concerne le budget consacré à la protection sociale, la Lituanie redistribue beaucoup moins bien que la moyenne européenne. Emprunter pour l'alimenter signifierait faire peser le poids de la dette sur les générations futures. La question est où trouver de l'argent? Impossible de toucher à la santé, à l'éducation ou encore à la défense qui est très importante en ce moment.
Ce seront désormais les nouveaux députés qui vont devoir résoudre ce casse-tête, eux qui ont fait campagne sur cette thématique.
Le livre autobiographique d'Alexeï Navalny est sorti cette semaine en France. Patriote, mémoire, c'est chez Robert Laffont. Des mémoires inachevées et posthumes de l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, pourfendeur acharné de la corruption et du pouvoir autocratique et mafieux. Il est mort en prison en février dernier. Présenté comme le blogueur le plus célèbre de Russie, il avait été victime d'un empoisonnement par les services secrets en 2020. Sauvé de justesse en Allemagne, il avait quand même choisi de rentrer chez lui malgré les risques. Immédiatement placé en détention, condamné à de multiples peines, il a passé 3 ans en colonie pénitentiaire et n'a pas survécu. Bonjour Frédéric Lebel.
Bonjour.
Vous avez lu pour nous les 500 pages de l'ouvrage. Que sait-on des conditions dans lesquelles il a été écrit ?
Eh bien, Alexeï Navalny a écrit la première partie de ce livre lors de sa convalescence en Allemagne. L'homme a failli mourir. C'est donc un peu un testament politique avant l'heure et un bon coup marketing, dit-il, avec son humour ravageur qui irrigue toutes les pages. La deuxième partie ressemble davantage à un journal de prison horrifiant. Comment les écrits sont-ils sortis ? Par le biais de ses avocats, de certains gardiens complices ? On ne le saura pas pour des raisons évidentes de sécurité.
Et quel Navalny, quelle sorte de militant est-ce qu'on découvre dans ce livre ?
Eh bien, on connaissait le militant acharné pour défendre la démocratie et lutter contre la corruption. Mais à lire ce journal, on comprend que c'est une rage qui l'habite. Le parti de Vladimir Poutine, Russie unie, le parti des voleurs et des escrocs, comme il l'appelle, est une plaie pour un pays qui compte 20 millions de pauvres, empêchés de se présenter aux élections. Il se concentre donc sur les campagnes de dénonciation en ligne. La fameuse vidéo sur le palais de Poutine sur les bords de la mer Noire, sortie juste après son retour en Russie en 2021, a comptabilisé plus de 130 millions de vues. C'est donc aussi par la guerre des images qu'il veut gagner.
Et le militant démontre au fil de ses pages une ténacité qui force le respect.
Oui, on peut dire qu'il ne lâche rien. La seconde partie du livre sur ses 3 années de prison montre un Navalny qui refuse de plier face à toutes les tentatives d'humiliation, de torture psychologique. On l'envoie au CHISO, la cellule disciplinaire, pour un bouton déboutonné, pour 3 secondes de marche sans avoir les mains dans le dos. On installe dans la cellule en face de la sienne un fou furieux qui hurle 24 heures sur 24. Mais il continue à tenir tête à ses geôliers et veut créer un syndicat de défense des prisonniers. Les règles de la prison sont absurdes et iniques. On lui refuse les soins pour un mal de dos qui menace de le paralyser. Afin d'obtenir une visite médicale, il doit faire une grève de la faim. Et pour le faire craquer, on place systématiquement des bonbons dans ses poches. Mais Navalny en rit. Décidé à ne rien céder à son tortionnaire, il garde la foi au sens littéral du terme, car il croit en Dieu, mais la foi non dans son avenir, mais dans le sens de son combat. La scène la plus touchante du livre est sans aucun doute le récit d'une des dernières visites de sa femme Yulia, plus d'un an avant sa mort, où tous les deux conviennent qu'il ne pourra pas sortir vivant des prisons de Poutine.
Alors, au fil de ces pages se dessine un héros, mais ce n'est pas si simple, Frédéric, il faut aller plus loin.
Oui, il est certain qu'Alexeï Navalny est un héros qui est allé jusqu'à la mort pour défendre ses idées, mais un héros dont le passé recèle des zones d'ombre, qu'il effleure d'ailleurs à peine dans ce livre. On connaissait son engagement au début des années 2000 auprès du parti Yabloko, un parti libéral-démocrate dont il sera exclu pour nationalisme. Alexeï Navalny explique son éviction surtout comme une querelle d'ego. En fait, il n'en fait pas mention dans le livre, mais à l'époque, Navalny a tenu des propos inacceptables sur les Caucasiens, qualifiés de cafards. Il a demandé la déportation de tous les travailleurs clandestins venus d'Asie centrale. C'est aussi l'époque des marches russes qui rassemble toutes les mouvances nationalistes les plus extrémistes et auxquelles il participe. Il justifiera plus tard sa présence par la nécessité de parler à toutes les franges de l'opposition et il ne tiendra plus de propos racistes. Mais ce qui est clair dans ce livre, c'est qu'Alexeï Navalny n'est pas un théoricien, c'est un pragmatique, un patriote et un révolté.
Merci Frédéric Lebel. Patriote mémoire d'Alexeï Navalny est paru chez Robert Laffont. Le oui au référendum sur l'adhésion à l'Union européenne l'a emporté de justesse en Moldavie, c'était dimanche dernier. Et le double scrutin, il y avait aussi des législatives, a beaucoup mobilisé l'attention des médias, comme l'a constaté Franceline Beretti qui parcourt tous les jeudis la presse européenne pour Accent d'Europe.
Selon les renseignements moldaves, cités par Le Figaro, Moscou dépense plus de 10 millions d'euros chaque mois, depuis janvier, dans des opérations d'ingérence politique. Concrètement, environ 150 000 personnes ont été payées, d'après eux, pour voter non au référendum sur l'adhésion à l'Union européenne, payées entre 50 et 100 euros. La BBC a trouvé une de ces votantes du Kremlin.
Ils ont dit qu'ils payaient 500 roubles. Ensuite, un homme a dit 1000.
Vous venez de Transnistrie ?
Oui.
Beaucoup d'entre vous sont venus ici pour l'argent ?
Oui, moi et elle. Et trois autres personnes doivent venir aussi.
Vous deviez voter pour quelque chose en particulier ou juste participer ?
On a voté pour celui qu'ils nous ont dit. Je ne veux pas dire qui.
La présidente sortante, la pro-européenne Maia Sandu, est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle, organisée le même jour, malgré le raid de Moscou. Le 3 novembre, elle affrontera Alexandru Stoyanoglu, soutenu lui par les pro-russes.
En Italie, l'accord migratoire avec l'Albanie a été mis en œuvre la semaine dernière, Franceline. Pour la première fois, des migrants, des demandeurs d'asile ont été renvoyés vers des centres administratifs de détention à l'étranger.
De nombreux pays européens saluent la détermination de Giorgia Meloni dans ce dossier. Il faut dire que la présidente du Conseil italien réussit là où la Grande-Bretagne a échoué avec son projet de renvoi de migrants vers le Rwanda. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a même écrit que l'Union devait réfléchir à l'idée de développer des centres de retour et tirer des leçons de l'expérience italienne. Et pourtant, malgré toute cette reconnaissance européenne, Meloni se fait tacler par la justice de son propre pays. Un tribunal de Rome a jugé illégal le renvoi de ces premiers migrants en Albanie. La chef du gouvernement italien l'avait mauvaise vendredi.
En résumé, ce que disent les juges, c'est qu'il n'existe pas de pays sûr. Le problème, c'est qu'on ne peut plus renvoyer personne. Le problème, c'est qu'on ne peut mener aucune politique de défense de nos frontières. Alors j'espère qu'on va aussi m'expliquer comment je dois faire, qu'on va m'expliquer comment gérer l'ordre public, qui va payer pour les milliards de dépenses qu'il faudra engager. J'espère qu'on va me donner des solutions, parce que moi, je dois en trouver. Les Italiens m'ont demandé de stopper l'immigration illégale et je la stopperai. Ou disons que je ferai de mon mieux pour limiter l'immigration illégale de masse.
Deux choses dans cette déclaration à la presse. D'abord l'attaque au juge, qui empêcherait Meloni de faire son travail alors qu'elle porte la légitimité du peuple, un argumentaire classique. Mais surtout, il y a comme un aveu d'impuissance. Elle admet en creux ne pas pouvoir stopper l'immigration illégale. Elle promet qu'elle fera de son mieux. Pourquoi ? Parce qu'avant même la décision des juges, ce premier rapatriement n'avait rien d'épique, comme le raconte la journaliste Lily Gruber.
Sur l'Albanie, je rappelle simplement que 16 migrants sont arrivés hier. Mais 4 d'entre eux ont dû être immédiatement renvoyés en Italie, car 2 étaient mineurs et 2 autres trop fragiles.
16 moins 4, vous avez bien compté, ça fait 12. 12 migrants ont donc été envoyés en Albanie depuis l'Italie, puis renvoyés en Italie 3 jours plus tard, après la décision de justice. Tout ça pour ça. On comprend que Meloni soit passée de la promesse de résultats à la promesse de moyens.
Les réseaux sociaux britanniques ont partagé une vidéo du roi Charles accueilli de façon peu diplomatique en Australie.
C'était lors de sa visite au Parlement, lundi à Canberra.
Rendez-nous ce que vous nous avez volé, nos squelettes, nos crânes, nos bébés. C'est notre pays, ce n'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas mon roi, vous n'êtes pas notre roi.
Charles III a donc été violemment interpellé par une sénatrice aborigène, Lydia Thorpe, qui ne le reconnaît pas comme souverain, mais comme génocidaire. Une contestation pas franchement surprenante, selon la BBC. Le roi venait en Australie en sachant bien que la question aborigène allait être évoquée d'une façon ou d'une autre. Son visage impassible, alors que la sénatrice est évacuée, d'ailleurs une belle manifestation du célèbre flegme britannique.
Merci Franceline Beretti, à la semaine prochaine.
Avant de miner, il fallait constater le gaz avec la lampe. On mangeait avec les souris et les rats, et les pieds dans l'eau. Les souris, c'était encore positif. Le signe qu'il n'y avait pas de gaz.
La 29e COP approche, c'est dans moins de 3 semaines à présent, mais sur le terrain, en attendant les décisions géopolitiques, les villes s'activent. À Béthune, par exemple, dans le nord de la France, région où le charbon a longtemps dominé l'économie. Si les mines ont fermé, le grisou, le cauchemar des mineurs, lui est toujours là et ce gaz alimente désormais en partie le chauffage urbain. C'est un reportage de Lise Verbeck.
Derrière une grille sécurisée se trouve l'installation de l'entreprise Gazonor. Juste à côté, il y a un stade où jouent des enfants et nous sommes à quelques minutes à peine du centre-ville de Béthune.
Voilà, tout part d'ici. Donc les tuyaux que vous voyez sortir du sol, c'est le gaz de mine qui provient de Divion, à une quinzaine de kilomètres d'ici.
Yann Fouan, directeur projet chez Gazonor.
Il faut savoir que le gaz de mine, c'est un gaz qui est riche en méthane. Donc si on ne le capte pas, il termine à l'atmosphère. C'est le résidu des 300 ans d'exploitation du charbon. C'est un fort gaz à effet de serre, étant donné que le méthane est jusqu'à 30-40 fois plus polluant que le dioxyde de carbone.
Quand les dernières mines ont fermé, l'État a fait face à ce problème de grisou qui s'échappe dans l'atmosphère, d'où la création de Gazonor, chargé de capter ce gaz via des puits.
Depuis les années 90, avec l'arrêt du charbonnage, on a ce captage du gaz côté français qui a été mis en place. Côté belge, c'est encore un peu nébuleux. On travaille avec l'État wallon pour trouver des solutions pour éviter des émissions de gaz à l'atmosphère, mais surtout pour valoriser cette énergie gazière disponible sur place. Et on va dire que c'est une continuité, c'est une croissance continue depuis les années 90 qu'on voit. Et au fur et à mesure, on avance, on trouve toujours plus de gaz.
Le gaz de mine est utilisé notamment pour produire de l'électricité, mais aussi depuis 3 ans, il est utilisé dans la chaufferie de Béthune. Cette chaufferie, qui alimente le réseau de chaleur de la ville, est expérimentale et unique en France. Elle utilise le gaz de mine à hauteur de 30% pour chauffer 150 bâtiments, des écoles, des hôpitaux, un commissariat, des gymnases, mais aussi des logements. Un vrai pari pour la ville de Béthune car le projet a été lancé au moment où le prix de l'énergie était bas. Pierre-Emmanuel Gibson, élu en charge de la transition énergétique.
Et ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'on allait être frappé depuis quelques années par une terrible crise énergétique avec une hausse incroyable du prix du gaz. En faisant le choix d'une énergie de récupération, une énergie écologique, une énergie finalement durable, on a fait un pari gagnant puisqu'aujourd'hui le réseau il est quasiment 7 fois moins cher que le gaz naturel. C'est-à-dire concrètement pour un habitant qui vit dans un appartement de taille standard chez un bailleur social dans une tour, c'est 450 euros d'économie par an et pendant quasiment 30 ans sur son chauffage. Pour des familles modestes, c'est un vrai coup de pouce à leur pouvoir d'achat et c'est un vrai bouclier protecteur à la fois économique et écologique. En fait, les prix du gaz de mine sont figés. Quoi qu'il se passe en termes de géopolitique mondiale, quoi qu'il se passe sur les cours du gaz naturel, la partie gaz de mine de ce réseau, les prix sont sécurisés et figés. On a une formidable source d'énergie de récupération qui est sous nos pieds, qui est abondante, il n'y a qu'à ouvrir les robinets. Et on s'en sert aujourd'hui finalement pour chauffer pas cher les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils des mineurs. Et finalement, je me dis, quelle leçon de l'histoire.
Le grisou, le cauchemar des mineurs de fond, est donc aujourd'hui un acteur de la transition énergétique du bassin minier.
Si j'extrapole un peu et que je fais une image d'épinal, je dirais qu'on est en train de transformer ce qui était l'or noir, le charbon, en or vert, en or écologique, économique. Donc effectivement, oui, on a transformé quelque chose qui était un poids, un bilan, un héritage. Il y a eu les catastrophes minières, il y a eu la maladie de la silicose, etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses difficile à assumer dans ce bilan minier, mais il y a aussi aujourd'hui cette formidable opportunité du gaz de mine et de l'énergie de récupération que ça constitue. Donc, à un moment, tournons la page du passé, soyons fiers de cette histoire et construisons l'avenir avec un projet ambitieux qui est aujourd'hui à Béthune, mais qui pourrait demain être dupliqué dans plein d'autres villes du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'autres villes qui viennent nous voir et qui se disent « Mais est-ce que ce qu'ils font à Béthune, on ne peut pas le faire demain à Lens, à Liévin, à Carvin, à Hénin-Beaumont, à Douai, à Valenciennes, même jusqu'à Charleroi en Belgique ?» Finalement, on est en train peut-être d'être un prototype, une expérimentation réussie qui pourrait demain se dupliquer dans l'ensemble du bassin minier des Hauts-de-France.
8 autres projets de ce type sont d'ailleurs en cours dans la région. Avec 110 000 km de galeries, le gaz de mine pourrait être capté pendant 150 ans encore.
À la réalisation, Stéphane Desfossés. Accent d'Europe, c'est aussi en podcast quand vous voulez. Et restez avec nous, on est bien sur RFI.